Il est 6h40 et nous retrouvons Jacques Munier pour le Journal des Idées. Bonjour Jacques.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Le
Bonjour à toutes et à tous.
confinement nous a fait apprécier des choses simples, Jacques, et notamment
Oui.
le rationnement qui rehausse la valeur. Prendre l'air, contempler la nature ou la ville, cultiver son jardin, au sens propre comme au figuré.
Oui, et ce double sens est au cœur du livre de Robert Harrison. Jardin, son titre, Jardin, réflexion sur la condition humaine, publié aux éditions Le Pommier. Du jardin d'Éden à ceux de Versailles, en passant par l'épopée de Gilgamesh ou le Décaméron de Boccace, et où des jeunes gens trouvent refuge en campagne aux environs de Florence dévastée par la peste. Le livre explore cette double dimension intérieure et paysagère. Robert Harrison enseigne au département de littérature française et italienne de l'université Stanford. Et c'est aussi à une élégante promenade dans les œuvres et la culture qu'il nous invite. À commencer par le jardin d'Épicure, où les disciples entretenaient un potager qui les mettait au contact des rythmes naturels. Le but de la sagesse épicurienne était le bonheur, dans un sens différent de celui qui avait cours chez les Grecs, lié à l'exercice de la citoyenneté. Le bonheur épicurien n'est pas pour autant une fuite hors du monde. L'ataraxie, la paix de l'âme, consiste dans un accord intérieur avec l'ordre cosmique, la vie et la mort. Une même tension traverse l'ataraxie et la sérénité close des jardins, la tension entre ordre et entropie. Qu'il soit modeste ou plus vaste, déployant ses secrets le long de sentiers sinueux, le jardin est un microcosme. C'est également vrai du jardin minéral japonais, aux antipodes du jardin à la française. Là, c'est la pierre qui figure l'analogie avec la nature. Robert Harrison en tire une autre leçon, celle de l'éducation au regard. Notre monde a beau tout miser sur l'exhibition des choses, surinvestir les paysages et les images, il déclare en réalité la guerre au regard, cette vision pensive qui fait coïncider le regard intérieur et l'objet. À promener partout son appareil photo ou sa caméra, on s'en prive. La stratégie du cadrage pétrifie le regard. Pour parvenir à voir le jardin de sable comme un archipel d'îles rocheuses, il nous faut ménager la double dimension de la perception, l'espace et le temps. C'est ce qui manque aux images, le rayonnement du phénomène qui ne se déploie que dans le temps. Le jardin japonais nous éduque à la perception de la profondeur. La dernière livraison de la revue Jardin explore le sauvage. Pardon. Emmanuel Ecocha s'y emploie à déconstruire la notion de sauvage. Claude Lévi-Strauss avait déjà montré dans La pensée sauvage que la magie et la science n'étaient pas opposées par le genre d'opération mentale qu'elle suppose, qui diffère moins en nature qu'en fonction des types de phénomènes auxquels elle s'applique. Exit donc le sauvage comme figure du mépris colonial, mais même la frontière entre civilisation et monde naturel, entre humain et non-humain, que suppose la notion de sauvage, apparaît artificielle. Nous sommes tout aussi perméables à notre environnement que les animaux ou les plantes. Et depuis Darwin, on sait que la vie humaine ne diffère pas de celle qui s'exprime sous d'autres formes. Inversement, la vie non-humaine n'est pas régie par une adhésion sans faille à sa propre nature en vertu d'un présupposé hors téléologique. Tout être vivant se constitue à l'intérieur d'une relation agricole ou zootechnique avec d'autres vivants. La fleur cultive ce type de relation avec les insectes pour sa pollinisation. Ce sont eux qui prennent des décisions autonomes, instaurant une forme d'agriculture ou d'élevage, traversant les frontières des règnes biologiques. Or, c'est bien le goût et non pas une sorte de prédestination mécanique qui anime les insectes, le contenu en sucre d'une fleur ou son apparence esthétique. Le monde, s'il est observé de ce point de vue, devient le résultat toujours changeant de cette intelligence et de cette sensibilité universelle et cosmique de formes de vie infinies, écrit Emmanuel Ecocha. Pour finir en beauté, cette image des balais aériens formés par les vols des tourneaux au coucher du soleil que Jean-Christophe Bailly évoque dans les cahiers de l'école de Blois consacrés à la mesure du vivant. Ces improbables vortex et vertigineux renversements de nuages volatiles dénotent une auto-organisation parfaitement synchrone, chaque oiseau accompagnant l'autre dans une sorte d'ivresse concertante. Contrairement au vol des oies ou des grues en migration où un animal expérimenté oriente le groupe, ces démonstration collective de pure joie et d'hymne au vol manifeste une forme de vie qui illustre la propension du vivant à croître et à se transformer sans cesse.